Bonjour chers auditoristes de la radio Esprit Occitanie. Bienvenue dans l'émission Vers de terre. Cette émission est présentée par des étudiants et étudiantes du master de sociologie PEPS, ou politique environnementale et pratique sociale. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Lucille, dans le rôle de Stéphania.
Bonjour.
Une voyageuse favorable au projet de la LGV. De Sénabou, la contrôleuse.
Bonjour.
Élise, dans le rôle de Charlotte, militante anti-LGV.
Bonjour.
Jimmy, un usager du train, peu informé sur ce projet, nommé Jules.
Bonjour.
Théo, dans le rôle de Noah, un militant engagé contre le projet de LGV.
Bonjour.
Et enfin Marion, moi, qui jouera la voix de la SNCF ainsi que la conductrice du train. Nous allons aborder le sujet de la ligne grande vitesse, aussi appelée LGV, entre Toulouse et Bordeaux. Impossible que vous soyez passé à côté de ce sujet qui fait tant de controverses sur le territoire du Sud-Ouest. Il s'agira dans cette émission de 30 minutes de présenter les arguments des différentes actrices engagées dans la controverse et ainsi de comprendre les enjeux forts qu'elles soulèvent. La question que nous nous sommes posée est la suivante. Entre aménagement territorial et résistance citoyenne, le projet GPSO révèle-t-il une crise profonde de la démocratie environnementale dans le Sud-Ouest ? Bonjour et bienvenue à bord de votre émission Radio Train. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait débat dans la région du Sud-Ouest, le projet de la ligne Grande Vitesse qui relierait les villes de Bordeaux et Toulouse. Nos invités du jour vous proposent une performance audio théâtralisée. Installez-vous confortablement dans vos sièges attitrés pour une immersion totale. Bonne écoute et surtout bon trajet à bord de nos trains SNCF.
Voiture 5, ah, place 151, ah c'est ça.
Oui, c'est là.
Mesdames, messieurs, votre train intercité numéro 6243 à destination de Bordeaux-Saint-Jean accuse actuellement un retard de 30 minutes. Je répète, le train à destination de Bordeaux accuse actuellement un retard de 30 minutes. La SNCF vous prie de bien vouloir l'excuser pour la gêne occasionnée. Le train va partir, éloignez-vous de la bordure du quai. Attention à la fermeture automatique des portes.
Franchement, encore du retard. Et vu les prix qu'on paye, c'est abusé. Et c'est l'avantage du retard, c'est qu'au bout d'un mois, il y a un repas gratuit. Pas très copié, mais gratuit.
Bah ça, c'est parce que la SNCF, c'est privé maintenant.
Comment ça, c'est privé ?
Enfin, pas totalement. Mais en gros, depuis la réforme de 2020, la SNCF est devenue un groupe public à capitaux d'État. Ça veut dire que l'État possède toujours la SNCF, mais qu'elle fonctionne davantage comme une entreprise. Logique de rentabilité, concurrence, ouverture de marché, tout ça quoi.
Donc c'est public, mais géré comme du privé ?
Voilà, c'est ça. Et ça change plein de choses. Les lignes jugées rentables sont favorisées, donc il y a une pression sur les coûts. Alors que les TER, comme ils dépendent beaucoup des régions, ils sont moins rentables pour la compagnie et donc moins en proie à des rénovations.
Mesdames, messieurs, nous sommes heureux de vous informer que très prochainement, vous pourrez gagner du temps sur vos trajets grâce au nouveau projet LGV. La SNCF vous souhaite à nouveau un bon voyage.
Alors ça, c'est marrant. T'as entendu, Charlotte ? Voilà qui nous annonce qu'on va gagner du temps grâce à leur fameux projet LGV, juste après nous avoir dit qu'on aurait un retard de 30 minutes sur notre trajet. Ils ont vraiment honte de rien.
C'est quand même fou. Notre train est en retard à cause des travaux d'un projet censé nous faire gagner du temps. Derrière cette modernisation, il y a surtout des expropriations, des terres bétonnées et de lourds dégâts pour l'environnement. Et tout ça pourquoi ? Gagner quelques minutes entre deux métropoles, pendant que les habitants en payent le prix.
Vous étiez au courant de ces projets ? Moi, pas du tout. Mais du coup, ça veut dire que ça va être comme le TGV Paris-Lyon ?
Oui, j'en avais entendu parler. Et pour tout vous dire, je suis un peu renseignée sur le sujet. Il s'appelle le GPSO pour Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest. En gros, pour faire court, ils vont construire une ligne grande vitesse pour qu'un TGV puisse circuler entre Bordeaux et Toulouse. Il faut savoir que les TGV peuvent aller jusqu'à 300 km/h. Avec une vitesse pareille, je suis sûre qu'on aura même de l'avance sur l'arrivée, l'heure d'arrivée des trains.
Mais je crois que je ne comprends pas bien le projet. Parce que le train roule déjà sur des rails, non? Pourquoi il y a besoin de travaux? Ça n'a pas de sens.
Alors oui, mais pas sur les mêmes infrastructures. Les TER circulent surtout sur le réseau classique, tandis que les LGV sont construites pour aller beaucoup plus vite, donc avec des voies spéciales.
Et si je puis me permettre, ces lignes à grande vitesse coûtent surtout énormément d'argent. Et en plus, elles ne desservent pas les petites gares et le billet coûte super cher.
Oui, j'ai même entendu que tous les villages des communes à moins de 40 km du tracé de la LGV vont devoir payer une taxe spéciale d'équipement qui doit rapporter 24 millions d'euros par an. Une taxe par foyer à payer pendant 40 ans alors qu'ils sont déjà assujettis par des taxes. C'est 2300 communes impactées. Puis, vous imaginez ? Être exproprié de chez soi pour que les trajets en train soient plus courts alors même que les personnes qui vont être expropriées n'utilisent peut-être même pas le train. Et ce n'est pas seulement une question de train, c'est aussi une question de justice territoriale. À force de concentrer les investissements sur les grandes villes, on laisse de côté les petites gares, les lignes du quotidien et les personnes qui dépendent vraiment du TER.
Et puis, le coût des travaux est quand même de 14 milliards d'euros. C'est fou! Apparemment, cette somme doit être financée à 40% par l'État, 20% par l'UE et 40% par les collectivités locales, notamment à travers les taxes, comme tu viens de le dire.
Ah oui, ça fait une sacrée somme en effet. Mais concrètement, ça va nous faire gagner combien de temps sur nos trajets, cette histoire?
Ça permettrait de faire le trajet en une heure sans arrêt contre deux heures actuellement. Et ça, c'est pas négligeable, faut bien se le dire. C'est quand même un sacré gain de temps.
Bonjour, les billets s'il vous plaît. Je vous ai entendu parler, c'est vrai que ce projet coûte une petite fortune, mais comme on dit, le temps c'est de l'argent. Donc tout l'argent dépensé dans la construction de la LGV sera largement remboursé grâce au temps de trajet que l'on va gagner.
Oui, mais bon, pourquoi cette obsession de toujours aller plus vite? Au moins à cette allure, on peut voir les paysages, les vaches dans les champs, les oiseaux sur les arbres, les biches courir dans les prairies. Si ça, c'est pas mignon?
Parce que le train rapide, c'est l'avenir. Si vous voulez profiter des paysages, autant faire le trajet en vélo. La France a construit son réseau TGV depuis les années 1980 pour relever les grandes villes à Paris. Et grâce à ça, plus besoin de passer 5 heures en voiture pour aller d'une métropole à l'autre.
Et puis, c'est surtout une logique européenne. Aujourd'hui, les grandes métropoles sont en concurrence. Donc, il faut être connecté, accessible et attractif. Donc, comme vous dites, la LGV, c'est vraiment une nécessité.
Ouais, peut-être. N'empêche que ce projet de LGV s'inscrit dans une continuité d'une éternelle course au progrès. On veut aller toujours plus loin, toujours plus vite.
C'est exactement ce que analyse le sociologue Armand Rosa avec l'idée d'accélération sociale. Il montre que nos sociétés s'accélèrent en trois niveaux. Sur le plan technique, avec des innovations comme le train. Sur le plan du changement social, parce que les institutions, les normes, les modes de vie évoluent de plus en plus vite. Et sur le plan du rythme de vie, où l'on a le sentiment de devoir faire toujours plus de choses à un temps limité. On mange plus, on dort moins, on est plus stressé, plus anxieux. Rosa montre que malgré les outils censés nous faire gagner du temps, la pression temporelle ne cesse d'augmenter.
Pression temporelle, on va pas non plus aller au ralenti juste pour être moins stressé. Faut vivre avec son temps.
C'est le même principe avec les LGV. On gagne du temps entre Bordeaux et Toulouse, et à plus grande échelle entre les différentes métropoles, mais finalement, on en perd entre les gares rurales qui sont presque plus desservies et qui se retrouvent isolées. Tout ça repose clairement sur une certaine vision du territoire qui consiste à tout miser sur les grandes métropoles au détriment des toutes petites villes.
Ah oui, d'accord. J'imagine que ce projet de LGV n'est pas avantageux pour tout le monde alors.
Malheureusement, bah non. La SNCF finit par oublier les petites lignes TER qui servent beaucoup dans les endroits un peu plus reculés. Et au final, bah, ce sont les habitants ruraux, mais aussi les plus modestes qui en pâtissent. Vraiment, la LGV, c'est pas pour tout le monde. Et d'ailleurs, toutes les études sur le TGV le montrent. Ce sont les grandes métropoles qui y gagnent le plus. Et même un terme pour ça, ça s'appelle l'effet tunnel. Le train, il traverse les territoires sans jamais s'y arrêter. Et pendant qu'on met des milliards sur Bordeaux-Toulouse, et ben, les petites lignes, elles continuent de fermer ou alors de se dégrader.
Oui, mais bien, il faut moderniser ce pays quand même. On ne peut pas rester bloqué avec des infrastructures du siècle dernier. De toute manière, si le projet est en train d'être construit, c'est que des accords ont dû être passés, sinon ça ne se ferait pas.
Oui, et il y a d'ailleurs beaucoup d'acteurs qui soutiennent le projet.
Genre qui?
Bah, l'État, évidemment. Il y a la SNCF aussi, les grandes métropoles comme Bordeaux ou Toulouse, des élus locaux, des chambres de commerce ou encore des entreprises.
parce qu'ils pensent que ça apporterait du dynamisme économique, du tourisme et puis après, tout c'est quand même une super alternative à l'avion.
Quelques prairies en moins, quelques fleurs coupées, mais en attendant beaucoup moins d'émissions de CO2.
Mesdames, messieurs, notre train est arrêté en pleine voie en raison du passage d'une famille de petits animaux trop choupis qui souhaitent passer sur les rails. Nous attendons qu'ils traversent. Merci de ne pas essayer d'ouvrir les portes du train, nous repartirons dans quelques instants.
Vu tout ce que vous venez de dire, j'imagine qu'il doit y avoir pas mal d'opposants à ces projets, non ?
Oui, carrément. Déjà, il y a les associations écologistes, parce que comme il vient d'être annoncé, il y a beaucoup d'animaux ici, certains sont même en voie d'extinction. Concrètement, le tracé, c'est pas juste une ligne sur une carte, ça va détruire beaucoup de biodiversité. Ils vont construire 327 km de lignes nouvelles, c'est-à-dire l'artificialisation de 4800 hectares de terre, forêts, vignobles, terres agricoles. Et en plus, ils veulent traverser la vallée du Ciron, qui est une forêt ancestrale vieille de 40 000 ans. On la surnomme même l'Arche de Noé de la biodiversité. Et ça, bah, ça me fait mal au cœur de me dire que ça va être déforesté rien que pour ce projet.
Non, mais c'est pas quand même la seule forêt de France. Puis les arbres, on pourra les replanter plus loin.
Non, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Certains espaces sont même classés zone Natura 2000. Ça veut dire que ce sont des espaces naturels protégés à l'échelle européenne parce qu'ils constituent des habitats pour plusieurs espèces en voie de disparition. Même l'autorité environnementale pointe des lacunes rédhibitoires dans l'étude d'impact.
Puis, il y a aussi les riverains qui s'opposent, surtout ceux concernés par des expropriations, des gens qui perdent tout pour que certains gagnent quelques minutes sur leur trajet. Et il y a des collectifs citoyens et des élus locaux qui se mobilisent aussi. Ça en fait beaucoup. Et puis, tous ces opposants, ils ne pointent pas du doigt seulement l'impact écologique, mais aussi le coût énorme du projet, qui est juste aberrant.
Donc, ça veut dire qu'on pourrait rénover les lignes existantes ?
Exactement. Beaucoup disent qu'on devrait d'abord améliorer les TER du quotidien plutôt que gagner 20 minutes entre les métropoles.
Mais les lignes classiques sont saturées. À quoi bon les rénover si c'est pour y avoir toujours des passagers, toujours plus de retard et donc toujours plus de problèmes et de réclamations ?
C'est peut-être vrai sur certains axes, mais je ne suis pas sûre qu'en supprimer d'autres pour en construire de nouveaux qui vont aller plus vite, ça soit la solution à tous nos problèmes. Certains disent même que les bénéfices annoncés sont exagérés. Moi, ce qui me gêne surtout, c'est qu'on présente ça comme un choix évident, alors que beaucoup d'habitants ont le sentiment que tout est déjà décidé. Il y a bien eu des enquêtes et des consultations, mais une vraie démocratie, ce n'est pas juste cocher des cases administratives.
En fait, on dirait que personne n'est d'accord.
Ouais, c'est un peu ça.
En même temps, il y a toujours des gens pour aller. Mais ils seront bien contents de prendre le TGV une fois qu'il sera construit.
Mesdames et messieurs, nous arrivons en gare de Montauban. Avant de descendre, veuillez vous assurer de n'avoir rien oublié à votre place. Et prenez garde pour que la démocratie n'ait pas lieu.
Le projet a suivi toutes les procédures. Enquête publique, débat publicisé, étude d'impact, validation par l'État. C'est totalement démocratique.
Oui, et puis la démocratie, elle fonctionne justement grâce à toutes ces institutions. On consulte, on débat, puis les élus décident. C'est comme ça, et puis c'est tout.
Donc pour eux, si les règles ont été respectées, alors le projet est légitime ?
Exactement, voilà, c'est ça.
Sauf que beaucoup d'opposants pensent que tout est déjà décidé d'avance. Et ils n'ont pas tort, on ne nous écoute pas tous.
Ils ont l'impression que la concertation sert juste à valider un projet déjà lancé.
Oui, en gros, pour eux, et je le pense aussi, la démocratie ne doit pas se limiter à des procédures administratives. C'est pas ça, la démocratie.
Ils veulent être réellement associés aux décisions ?
Voilà. Les citoyens défendent une démocratie plus participative, où les habitants peuvent réellement influencer ou alors bloquer un projet.
Mais on ne peut pas arrêter tous les projets dès qu'il y a des oppositions ?
Et inversement, est-ce qu'on peut encore imposer des grands projets sans tenir compte des limites écologiques et des habitants concernés ? Le problème, c'est que beaucoup d'habitants ont l'impression que tout est décidé avant même les consultations, qui, soit dit en passant, se font souvent par Internet et donc qui excluent une bonne partie de la population. Les opposants parlent d'une démocratie de façade, où on consulte partiellement mais sans vraiment pouvoir remettre en cause le projet. En plus, ce sont toujours les mêmes personnes qui sont concertées. On pourrait même dire que c'est des fausses concertations.
Non mais les gens ne sont jamais satisfaits. Ils pourraient déjà être contents qu'on les consulte, qu'on leur demande leur avis. Après, s'ils ne font pas la démarche de s'informer, on va pas le faire à leur place.
Peut-être que sur le papier, il y a une enquête publique, des avis, des commissions, mais regardez, la dernière enquête environnementale, plus de 2800 contributions, 92% d'avis défavorables et au final, un avis favorable et un préfet qui se félicite de la participation. C'est exactement ça une démocratie de façade. Et puis, le problème, c'est surtout que malgré des interdictions qui ont été officiellement exprimées, des dérogations ont été mises en place pour que le projet voie quand même le jour. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on peut avoir l'impression que la concertation sert surtout à légitimer une décision déjà prise. Et ça, pour moi, ce n'est pas vraiment de la démocratie environnementale.
Oui, c'est vrai. La SNCF a demandé des dérogations pour démarrer les travaux dans les zones protégées Natura 2000. Selon le Code de l'environnement, la dérogation peut être acceptée seulement si le projet remplit trois critères. Démontrer qu'il n'existe pas d'autre alternative, le projet ne doit pas avoir un impact trop délétère sur les espèces protégées, et il faut que le projet soit considéré comme raison impérative d'intérêt public majeur. Et tous les grands projets doivent passer devant le CNPN, le Conseil national de la protection de la nature, qui est rattaché au ministère de l'écologie, et composé de scientifiques indépendants.
Bah voilà, ils ont bien fait les choses, ils ont demandé une dérogation.
Ben, pas trop, non. Vu que cette dérogation a reçu un avis défavorable du CNPN, parce que le projet menace directement 223 espèces protégées, en détruisant des spécimens et en dégradant leur habitat. Mais au final, ce sont les préfets qui décident. Ils peuvent autoriser le projet malgré l'avis des experts scientifiques. Et pour faire respecter les lois de protection de la nature, il ne reste souvent qu'un recours au tribunal administratif, avec une décision qui tombe des mois plus tard.
Non, mais le problème, c'est surtout que la SNCF profite de ça pour passer en force sans attendre le jugement. Elle n'agit que sur la base de l'autorisation du préfet. C'est dégueulasse, mais c'est leur stratégie. Comme ça, si jamais le tribunal administratif considère que l'autorisation préfectorale était illégale, bah les travaux ils seront déjà entamés, les arbres déjà coupés, donc il apparaîtra inutile d'arrêter un projet déjà autant avancé.
Mesdames, messieurs, nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour le retard occasionné. Nous reviendrons bientôt vers vous pour vous annoncer les nouvelles correspondances. En attendant, nous vous proposons une petite interlude musicale qui, nous l'espérons, aiguillera votre trajet. Bonne écoute.
Et dans l'ombre des murs, loin de la caméra, les moutons noirs aussi préparaient ce moment depuis longtemps déjà. Et dans l'ombre des murs, loin de la caméra, les moutons noirs aussi préparaient ce moment depuis longtemps déjà. Ça commençait déjà, ils ricanent et s'esclaffent, ces lions affamés aux griffes acérées du fond de leur palace. Ils ont tout anticipé et leurs pions positionnés attendaient le fracas. Et dans l'ombre des murs, loin de leur caméra, des moutons noirs aussi préparaient ce moment depuis longtemps déjà. Et dans l'ombre des murs, loin de leur caméra, des moutons noirs aussi préparaient ce moment depuis longtemps déjà. Accepterons-nous encore? Combien de vies brisées par des mains arrachées par le sang de nos corps? Nous devons pour notre avenir, celui de nos enfants, tous ensemble nous unir pour faire cesser la main qui nous bat jusqu'au sang. Et dans l'ombre des murs, loin de la caméra, les moutons noirs aussi préparaient ce moment depuis longtemps déjà. Et dans l'ombre des murs, loin de leur caméra, réveillons la révolte qui dormait patiemment depuis longtemps déjà. Déjà.
Vous venez d'écouter Mouton Noir, une chanson interprétée par les zadistes de la zone à défendre de Saint-Jory, qui militent activement contre les travaux de la LGV.
Bon, au final, la LGV, c'est pas juste une histoire de train ?
Non, en effet, et même au contraire, c'est une question politique. Qui décide de l'avenir des territoires ? C'est pour ça que la démocratie environnementale est essentielle. Beaucoup de projets d'aménagement déclenchent des mobilisations écologiques locales, autoroutes, mégabassines, aéroports, et il y a eu certaines victoires des luttes citoyennes comme en Bretagne, le mouvement RDVN contre EDF.
Ah oui, c'est vrai, le fameux mouvement RDVN de 1975, quand 15 000 manifestants se sont réunis dans le Morbihan pour contester l'implantation d'une centrale nucléaire dans la ville. L'État a dû renoncer au projet d'ailleurs.
Mais du coup, démocratie environnementale, ça veut dire quoi concrètement ?
C'est l'idée que les citoyens doivent pouvoir participer aux décisions qui ont un impact sur l'environnement et sur leur cadre de vie. Donc pas seulement voter, mais aussi pouvoir être informés, débattre, être entendus, quoi.
Alors c'est pas pour dire, mais c'est le principe même de la démocratie représentative. On élit des représentants pour qu'ils choisissent après pour nous. Donc si on commence à vouloir tout changer, même la structure de notre démocratie, on n'est pas rendu.
Attends, mais tu ne vois vraiment pas le problème ? Notre démocratie n'est pas parfaite. D'ailleurs, pour Pierre-Rose Vallon, nous sommes une démocratie inachevée. En gros, même si on a des institutions, des élections, des représentants, on n'atteint pas l'idéal de la démocratie. La démocratie, c'est un processus en perpétuelle construction qui peut toujours s'améliorer. Donc il ne faut pas juste se contenter de nos acquis.
Et puis, même en démocratie représentative, il y a d'autres fonctionnements possibles, comme le mandat impératif, par exemple, que préconise Rousseau.
Mais c'est quoi le mandat impératif ?
C'est un mode de représentation dans lequel les élus ont l'obligation de respecter ce qu'ont décidé les électeurs. Sinon, ils sont révoqués.
Non, mais dans tous les cas, il n'y aura jamais tout le monde d'accord. Donc si on suit l'idée de Rousseau, on va juste tomber dans un cercle vicieux où on va sans cesse révoquer les élus. Au bout d'un moment, il faut faire un choix et arrêter de revenir sans cesse dessus. Regardez pour la LGV, personne n'est d'accord. Mais pourtant, il va bien falloir qu'elle soit mise en place.
On n'est pas sorti de l'auberge, hein. Entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, les bénéfices et les avantages du projet, mais aussi ses impacts et ses répercussions, tout est entendable. Mais à la fin, une décision va être prise et le projet verra le jour ou pas.
Ce qui est sûr, c'est que Sébastien Lecornu, accompagné de 3 ministres, est venu le 7 mai à Toulouse pour signer l'ultime protocole qui rend irréversible la construction de la ligne. Donc qu'on le veuille ou non, ça va se faire. Et personnellement, je trouve que c'est une bonne chose.
Mais il n'est jamais trop tard pour mettre en place une vraie réponse citoyenne. Moi, j'y crois.
Mesdames et messieurs, dans quelques instants, notre train entrera en gare de Bordeaux-Saint-Jean, terminus de notre train. Avant de descendre, assurez-vous de ne rien avoir oublié à votre place. La région Occitanie et la SNCF espèrent que vous avez effectué un agréable voyage et souhaitent vous retrouver bientôt à bord de nos TER, Intercités et très prochainement TGV. Merci d'avoir choisi le mode de transport le plus écologique pour se déplacer. À bientôt sur nos lignes. Auditeurs, notre émission touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés sur Esprit Occitanie. Nous espérons que ces échanges vous ont permis de mieux comprendre les enjeux de démocratie environnementale qui se jouent autour de ce projet LGV. Nous tenons à remercier Jacques Laverne, directeur de radio, et Jean-Luc Pavelodi, directeur des programmes, de nous avoir donné l'opportunité de réaliser cette émission. Nous remercions également le technicien Sacha pour son accompagnement durant l'enregistrement de l'émission. Si vous voulez aller plus loin dans le sujet, nous vous recommandons de lire les articles suivants. Un premier article qui se nomme « Le projet de LGV Bordeaux-Toulouse, des perceptions territoriales différenciées » de Florence Lomière et Jean-Pierre Wolff. Un autre article intitulé « Observer l'impact des lignes à grande vitesse, acteurs et territoires du Grand Ouest français » écrit par Gérald Billard et Lionel Bertrand en 2018. Nous recommandons aussi la vidéo YouTube de Hockey Charlotte qui s'intitule « À quoi servent les zadistes ?». Ici, elle donne la parole aux personnes de la ZAD contre la LGV. Et enfin, l'article de Rosa Hartmuth dont nous avons parlé dans l'émission qui s'intitule « L'accélération, une critique sociale du temps ». C'était le Master Peps dans l'émission Vers de Terre. Merci de votre écoute et à bientôt sur Esprit Occitanie.
We the people of the soil. We gotta hear it all the time. To keep in our mind.